catéchèse et catéchisme. Ce n'est sûrement pas pour le plaisir du changement que la manière de catéchiser les enfants a fortement évolué. Il y a seulement 50 ans, on pouvait se contenter d'une instruction religieuse par question-réponse sur le point essentiel de la religion. La véritable catéchèse avait été faite la plupart du temps en famille. L'enfant arrivant au catéchisme avait déjà fait connaissance avec Dieu, Jésus, Marie. Il avait appris à prier à sa manière. Déjà, il avait été conduit à la messe. Aujourd'hui, les choses se sont inversées. Pour quelques rares cas où une initiation sérieuse a été faite en famille, la plupart des enfants n'ont même pas entendu parler de religion. C'est donc à une véritable initiation que les catéchistes d'aujourd'hui doivent se livrer. Non seulement ils ont à meubler l'esprit des enfants de quelques notions exactes, mais surtout ils doivent permettre à l'enfant de faire une véritable rencontre des dieux à travers Jésus et son évangile. Il est vrai que cette tâche est passionnante. On le voit à plusieurs signes. Tout d'abord, les enfants ne sont pas les seuls à demander une catéchèse. Dans tous les diocèses, beaucoup d'adultes découvrent ou redécouvrent l'appel de la foi. Si bien que l'on a dû créer deux services nouveaux, les catéchuménats pour ceux qui ne sont pas baptisés, le service des recommençants pour des baptisés qui veulent retrouver une foi qu'ils ont complètement abandonnée. L'expérience qui s'y fait réjaillit sur le travail auprès des enfants. Un autre signe est qu'ils ne sont pas rares les parents d'enfants catéchisés qui retrouvent par là même la joie de renouer avec leur propre foi, souvent tombée en désuétude. Catéchèse et catéchisme, une histoire mouvementée. À l'origine, il y a la parole, nous dit le prologue de l'évangile de Saint Jean. Elle résonne parmi les hommes, chacun se trouve invité à lui faire écho dans sa vie. Résonner, faire écho, en grec katekouein, d'où catéchèse. Catéchiser, faire écho à la parole, dans sa vie et dans la société, l'accueillir et la mettre en pratique. Tout chrétien est catéchiste ne serait-ce que pour lui-même, et catéchisé. La parole qu'il fait résonner ne vient pas de lui, mais de Dieu, dans et par l'Église. Les premières communautés chrétiennes vivent cela avec force. Composées d'adultes qui risquent leur vie, elles vivent une éducation religieuse permanente. Chaque dimanche, on lit l'Écriture sainte, on écoute sa résonance. Point n'est besoin alors d'institutions spécialisées. Tous font écho à la parole, tous sont catéchistes et catéchisés. L'Église se développe. Il faut accueillir les nouveaux venus. On organise pour eux le catéchuménat. Au IVe siècle, une chrétienne espagnole, Eteri, va en pèlerinage à Jérusalem. Elle découvre émerveillée comment procède le grand évêque Cyrille. Pendant les 5 premières semaines du carême, qui en conduite, il rassemble chaque matin les candidats au baptême et leur explique l'Écriture sainte. C'est ce qu'on appelle la catéchèse, précise-t-elle. Puis, durant 2 semaines, il explique les symboles de foi. Enfin, chacun vient réciter devant lui ce symbole qu'il a d'abord reçu. Ainsi se trouve mise en scène la résonance de la parole de Dieu écoutée et proclamée. Après le baptême, les catéchèses continuent. C'est le développement de la mystagogie, le chemin ouvert par les sacrements. On comprend alors, dit avec un peu d'envie notre pèlerine, pourquoi l'Église de Jérusalem est aussi ferme dans la foi. Le baptême des petits-enfants. Sous l'influence de saint Augustin, le baptême des enfants se généralise. Les catéchuménats disparaissent, et avec lui, le terme même de catéchèse. L'un et l'autre ne réapparaîtront qu'avec le Concile Vatican II, situé lui aussi à une époque charnière, lorsque la société se laïcise ou se sécularise. On est de moins en moins chrétien, on doit de plus en plus le devenir. La lettre des évêques aux catholiques de France, proposée la foi dans la société actuelle de 1996, en prend clairement acte et nous invite à entrer résolument dans une démarche de proposition, reposant sur l'écoute de la parole de Dieu pour qu'elle remplisse notre vie et puisse de là résonner dans la société. Notre situation est ainsi très proche de celle des débuts de l'Église. Nous sommes, les évêques le soulignent, dans une phase de naissance. Les nouveaux venus, catéchumènes ou recommençant à croire, nous disent l'œuvre en eux de l'Esprit Saint. Il faut désormais, estiment les évêques de France, Lourdes 2002, aller au cœur de la foi, revenir du catéchisme à la catéchèse. Celui-là voulait atteindre l'adulte de demain à travers l'enfant d'aujourd'hui. Celle-ci regarde enfant et adulte comme également aimés de Dieu et propose à tous de devenir amis de Jésus, de vivre l'Évangile aujourd'hui. Cela nous concerne tous. Les enfants simplement nous montrent la voie. Connaître Jésus-Christ. Je pose la question toute simple à chacun d'entre vous, mes chers frères et sœurs. Avez-vous fait personnellement l'expérience de la rencontre du Christ? Pourquoi connaître Jésus-Christ? Qu'est-ce que cela change? Pourquoi des hommes et des femmes aujourd'hui prennent-ils du temps pour aller au cœur de la foi? Un appel impérieux. La plupart des personnes qui viennent au catéchuménat n'ont jamais entendu parler de Jésus, ou très peu. Elles veulent recevoir le baptême, communier pour la première fois, devenir chrétienne. Mais c'est quoi être chrétien? Ce désir est en elles parfois depuis des années, depuis l'enfance, où une grand-mère, une tante ou une religieuse priait devant elles. Pour d'autres, un événement heureux, une rencontre, la naissance d'un enfant, leur fait découvrir que ce bonheur est signe d'un infini qui les dépasse. D'autres encore découvrent qu'elles ont reçu une force lors d'une épreuve, un deuil, un divorce, une réconciliation. Pour beaucoup de personnes, ça s'est passé comme ça. Elle a été baptisée, petite, a fait un peu de catéchisme, puis cela s'est arrêté. Elle croit en Dieu, elle prie quand cela va mal, et c'est une force en elle. Elle a vaguement entendu parler de Jésus, il paraît qu'il est mort, puis ressuscité. Quand je lui dis qu'être chrétien, c'est suivre Jésus, vivre avec lui, qu'il nous mène à Dieu, elle entend cela pour la première fois. Mais elle veut vraiment apprendre, commencer le chemin, connaître la vie de Jésus. D'autres disent simplement, il y a quelque chose en moi. Et ce quelque chose a l'air de remplir toute la pièce. Ou encore, Dieu, c'est comme une source en moi, une source d'amour. Cet appel intérieur est si fort qu'il les met en route et les amène à frapper à la porte de l'Église. Le premier pas est le plus difficile. Certains mettent plusieurs années avant de les franchir. Enfin, ils trouvent le courage d'en parler à un ami, un chrétien qui les guidera vers le catéchuménat. Une équipe d'accompagnement se forme et l'aventure commence. Un seul acteur, l'Esprit Saint. Certains accompagnateurs pensent ne pas être capables de cette mission. En réalité, il suffit d'accueillir. Dieu intervient lui-même dans l'histoire des personnes pour leur proposer de convertir leur vie à l'Évangile. Nous sommes souvent étonnés et émerveillés de ce qui jaillit du cœur de ces nouveaux croyants. Méditer ensemble la parole de Dieu est un véritable bonheur. Nous savourons la nouveauté de ces vieux textes entendus par des oreilles neuves. Il s'agit vraiment des catéchèses au sens fort du terme. La parole fait directement écho dans les cœurs de ces personnes en chemin. Et par ricochet, l'écho rejoint la foi des accompagnateurs. Nous touchons presque l'action de l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, parole de Dieu. Une conversion contagieuse. Nul ne sort jamais indemne d'un accompagnement avec un catéchumène. « Ma foi a été dépoussiérée », disait une accompagnatrice. Et une autre déclarait, « La foi des catéchumènes me bouleverse. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait de ce trésor ?» Dans les paroisses, les étapes du catéchuménat vécues dans les paroisses permettent de célébrer ensemble la vie de Dieu toujours renouvelée, de rendre grâce. Pourtant, la principale difficulté pour les nouveaux croyants, c'est l'apprentissage de la vie en Église. Cela pour deux raisons. Tout catéchumène vit d'abord une expérience personnelle de Dieu et ne voit pas du tout au départ l'importance de cheminer dans un groupe, puis d'aller aux rencontres du catéchuménat, puis de vivre les étapes du baptême dans la communauté. Il n'y a que lui que cela regarde. De plus, pour certains, l'Église est ringarde, ennuyeuse, renfermée, hiérarchique, riche, vieille. Si cet apprentissage de la vie en communauté n'a pas été fait pendant le temps du catéchuménat, il y a peu de chances que le catéchumène vive en baptisé par la suite et saisisse l'importance de l'Eucharistie pour la vie chrétienne. De leur côté, les communautés n'ont pas conscience de l'importance qu'il y aurait à accueillir les catéchumènes. Pour eux, c'est le nouveau croyant qui doit se plier à ce qui existe. Or, nous constatons que quand il y a vraiment rencontre entre les fidèles et les catéchumènes, la richesse des partages et des témoignages de part et d'autre transforme la communauté, la rajeunit. Un des enjeux du catéchuménat est là. Du choc de cette rencontre jaillit la vie. Faire résonner la parole. Les problèmes posés à chacun dans l'Église n'est pas d'abord celui de la connaissance exacte, de la transmission précise de la parole de Dieu. Il est celui de la capacité à faire résonner la parole de Dieu dans le cœur des catéchisés. Sans cette capacité, tout ce que l'on peut dire ou faire est aussi marquant que l'eau sur les plumes d'un canard. Faire résonner la parole de Dieu nécessite, me semble-t-il, en premier lieu de tout miser sur elle. Tout sur la parole de Dieu, pas sur la technique, pas sur les projets, sur la parole de Dieu. Aussi, puisque par miséricorde nous détenons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous avons dit non aux précédés secrets et honteux. Nous nous conduisons sans fourberie et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Bien au contraire, c'est en manifestant la vérité que nous cherchons à gagner la confiance de tous les hommes en présence de Dieu. Deuxième lettre Saint Paul aux Corinthiens 4, 1 à 2. Faire résonner la parole de Dieu, cela nécessite une conversion. Chacun conquiert le règne et le salut, moyennant un total renversement intérieur que l'Évangile désigne sous le nom de la métanoïa, une conversion radicale, un changement profond du regard et du cœur. Faire résonner la parole de Dieu, cela nécessite, comme chambre d'écho, une recherche du cœur, une écoute de la parole de Dieu, un partage communautaire. Une lettre des évêques. Les évêques de France, au nom de leur charge, ont écrit en novembre 2002 une lettre à tous les catholiques à propos de la catéchèse. Cette lettre est intitulée « Aller au cœur de la foi », appel à renouveler la pratique de la catéchèse en France. La catéchèse ne peut surgir que de la foi et d'une foi qui sait s'exprimer aujourd'hui. C'est pourquoi les évêques de France demandent à tous les fidèles d'exprimer ce qu'ils pensent possible pour proposer la foi aujourd'hui. Les évêques n'agissent pas là comme les membres d'un institut de sondage qui voudraient mesurer des opinions. Ils agissent en témoins qui veulent entendre ce que l'Esprit dit dans la communion de l'Église au fond des cœurs, dans l'écoute de la parole de Dieu et dans ce partage communautaire. Sans doute, ce qui étonnera le plus dans les documents des évêques, c'est qu'ils ne s'adressent pas aux seuls catéchistes, mais à tous les groupes, mouvements et communautés chrétiennes. Alors qu'une des difficultés actuelles de la catéchèse est de ne pas conduire la plupart des catéchisés à prendre place dans la communauté. L'interpellation des évêques vient rappeler que la catéchèse est une responsabilité de chacun et de tous. L'Église est une communion missionnaire. La mission n'est pas réservée à quelques-uns. On s'étonnera peut-être aussi de ce que les évêques proposent une réflexion sur la transmission de la foi à partir de l'expression de la vigile pascale. S'étonner ainsi serait oublier que la célébration pascale est la mère de toutes les liturgies et une expression vivante de la démarche chrétienne. Les évêques doivent donc s'appliquer à ce que les fidèles connaissent plus profondément les mystères pascals et en vivent davantage par l'Eucharistie, en sorte de former un seul corps étroitement lié dans l'unité de la charité du Christ. L'Église a trois missions qui s'interpénètrent, la louange, la liturgie, le service, le témoignage. Il est évident que la catéchèse doit permettre de pénétrer dans les mystères de l'Église par ces trois entrées. L'évêque doit y veiller. Mais au cœur de l'Église, communion, son être même est d'être signe d'une parole de Dieu qui dévance tout ce qui fait l'homme. Le cœur de la mission de l'évêque, c'est d'être le témoin joyeux, même au milieu des souffrances, de l'appel de Dieu à tous les hommes. Proposer la foi. Peut-être avez-vous remarqué qu'on hésite aujourd'hui à transmettre la foi, mais qu'on parle beaucoup plus volontiers de proposer la foi. Ces changements de vocabulaire qui pourraient sembler anodins ou correspondent à un effet de mode traduit au contraire la prise en compte de l'évolution profonde de notre société et en conséquence la manière dont l'Église de France comprend sa mission dans ces contextes. Transmettre la foi? Jusqu'à une période relativement récente, une large partie de la population française était catholique et pratiquante. Il semblait évident que la foi se transmettait des parents aux enfants comme un bien de famille, de manière assez certaine et automatique. Bien sûr, quelques-uns se permettaient de prendre leur distance avec cet héritage, mais ils étaient, somme toute, assez minoritaires. On était chrétien et toutes les grandes étapes de la vie en étaient marquées, naissance, adolescence, mariage, derniers instants de la vie et enterrement. Notre société actuelle a subi de ce point de vue une mutation radicale. Une crise généralisée de la transmission frappe de plein fouet toutes les grandes institutions en charge de transmettre quelque chose, école, État, Église. Plus rien ne paraît devoir être accepté sans contestation. Nous n'avons plus une confiance inconditionnelle dans ce que nous recevons de nos aînés. Ce qui était bon pour eux ne l'est pas nécessairement pour nous. Trop de choses bougent. Nous sommes au contact d'une multitude d'opinions différentes qui rendent relative tout point de vue. De plus, nous sommes devenus allergiques à tout ce qui nous contraint et nous voulons pouvoir décider par nous-mêmes de ce qui nous semble vrai ou non, de ce qui est bon pour nous ou pas. Parmi toutes les propositions de sens qui s'offrent à nous, nous choisissons ce qui nous convient et qui peut prendre sens pour nous, intégrer les aléas de notre histoire. Nombre de chrétiens pratiquants ont pris conscience que ce qu'ils avaient reçu et qu'ils pratiquaient par tradition, par obligation ou peut-être par habitude n'avait pas grand sens à leurs yeux et que rien ne les obligeait à s'y tenir. Certains abandonnent toute pratique. D'autres ne veulent rien imposer à leurs enfants. Il choisira quand il sera grand, disent-ils. D'autres encore, après un long temps de distance, se remettent en quête parfois du côté de l'Église, parfois vers d'autres traditions religieuses et même des sectes. C'est ainsi qu'il est devenu manifeste que la foi ne se transmet pas, mais qu'elle est un don de Dieu, fruit de la rencontre des deux libertés. Celle d'un Dieu qui s'offre par amour et celle d'un être humain qui accueille ce don comme une bonne nouvelle pour sa vie et qui s'en laisse transformer jour après jour. Loin d'être un automatisme, la foi requiert la décision personnelle de celui qui désire un jour se mettre à la suite du Christ en réponse à son invitation pour devenir son disciple. Proposer la foi. Il semble donc que l'Église ne peut plus se contenter d'enseigner le contenu de la foi à des gens qui la pratiquent déjà, ce qui était la mission de la catéchèse jusqu'à maintenant, car alors elle risquerait d'oublier qu'elle est envoyée annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. De ce fait, proposer la foi invite à une double attitude, s'ouvrir ensemble à ce qui nous fait vivre pour le recevoir et en vivre chaque jour davantage. C'est le sens de la démarche proposée par les évêques lors de l'Assemblée plénière de Lourdes en novembre 2002, dans la lettre à l'ensemble du peuple de Dieu, allée au cœur de la foi. Afin de renouveler la pratique de la catéchèse en France, les évêques invitent tous les chrétiens à une démarche commune. Avant de décider ce qu'il conviendra de faire et avant de choisir les moyens pour le faire, nous sommes persuadés qu'il nous faut aller ensemble, les uns avec les autres, au cœur de la foi. Il nous faut replonger nos existences dans ce qui fait notre vocation commune, former ensemble un peuple de disciples qui marchent derrière leur Seigneur. En effet, c'est bien en nous laissant sans cesse conduire et enseigner par l'Esprit du Seigneur, en nous laissant rassembler et transformer pour devenir chaque jour le corps du Christ, offert en partage à ce monde, pour en être le sel et la lumière, c'est bien en acceptant d'être nous-mêmes disciples et de marcher malgré la nuit, les doutes, les questions, que nous pourrons donner le goût de la rencontre avec le Seigneur qui nous fait vivre. Former une Église qui propose la foi, c'est revenir à ce qui nous fait tenir dans la vie en croyant. S'ouvrir à ce monde tel qu'il est. Proposer la foi suppose de regarder le monde qui nous entoure avec le regard bienveillant du Père, qui regarde chacun avec amour, qui connaît sa misère, sa soif, et qui veut le rassasier de sa présence, lui donner de partager sa vie en plénitude. Entendre la quête de ceux qui nous entourent et croire que l'Évangile a quelque chose à leur dire. Croire qu'au-delà de notre rationalisme froid, des scientifiques matérialistes que nous sommes tous, plus ou moins, Jésus-Christ peut rejoindre et séduire quelqu'un qui a soif de la vie, quelqu'un qui recherche la vérité. L'Église doit sortir de ses frontières pour aller à la rencontre de ce monde et proposer ce qui l'a fait vivre. Non pas à la manière de quelqu'un qui possède la vérité et veut en faire la leçon au monde, dans une attitude de supériorité quelque peu insupportable et tout à fait irrécevable par les mentalités contemporaines. C'est plutôt à un humble témoignage parmi ses frères et sœurs en humanité qu'elle est invitée aujourd'hui. Il s'agit de s'engager à la suite du Seigneur en acceptant de se laisser convertir, de laisser transformer nos vies pour qu'elles témoignent de la présence du ressuscité parmi nous. Il s'agit en même temps de marcher au milieu de nos frères en compagnons de route, heureux de partager et d'offrir le trésor qui illumine nos vies, heureux aussi d'accueillir ceux que l'Esprit du Seigneur voudra bien adjoindre à nos communautés. Notre responsabilité alors au sein de l'Église, de nous tous, est de rendre possibles les conditions de la rencontre avec notre Seigneur et de nous tenir là comme des compagnons de route discrets et respectueux devant un mystère qui leur échappe. Offrir des lieux accueillants, parler dans un langage compréhensible, nous rendre accessibles et disponibles pour écouter souffrances, questions, joies, et nous mettre avec ceux qui les souhaitent à l'écoute de la parole de Dieu, dans l'espérance que cette parole saura les rejoindre et éclairer leur vie, les relever, les mettre en marche. Cette tâche nous incombe. Mais faire que quelqu'un devienne croyant, nous n'avons pas prise dessus. C'est un don qui devra accueillir dans l'action des grâces, avec la responsabilité pour nous de l'accompagner à son propre rythme pour qu'il puisse tenir et grandir dans la foi. Pour terminer cette conférence, une expérience racontée par Marie-Isabelle qui a été baptisée dans la nuit de Pâques 2003. Les deux années de catéchuménat lui ont permis de faire progressivement une expérience d'Église. Elle s'est retrouvée avec son accompagnateur tous les 15 jours et ensuite l'équipe s'est élargie. De plus, chaque trimestre avait lieu une rencontre au sein du catéchuménat diocésain avec tous les catéchumènes et accompagnateurs. Au début, la méfiance envers les chrétiens la tenait à distance. Elle dit ceci, « Une de mes accompagnatrices était choquée parce que je ne ressentais pas le besoin d'aller à l'église. J'avais une fausse idée de la communauté. Je pensais être jugée parce que je n'étais pas baptisée. J'avais peur de ne pas me sentir acceptée, peur du regard des autres, de leur jugement. Il faut du courage pour faire la démarche d'aller seule à l'église. » Pendant les 2 ans des catéchuménats, la rencontre avec les catéchumènes la transforme. Elle dit, « Nous nous sommes lancés ensemble pour une période plus ou moins longue sur un chemin inconnu. Je me suis fait une amie. » La qualité des échanges entre catéchumènes à partir d'expériences de vie très diverses la touche profondément. Elle dit, « Nous avons tous la même chose en nous. Nous croyons en Dieu. Le catéchuménat est un lieu où on apprend à partager en profondeur. C'est tellement rare de pouvoir parler de Dieu à quelqu'un. » Elle se sent soutenue et respectée par ses accompagnateurs. Elle dit, « Ils sont complémentaires, chacun avec son expérience, son âge, à un esprit jeune et ouvert. Ils compteront toujours pour moi. Je me sens libre de mes propos, de mon écoute, de recevoir l'enseignement ou non. Je ressentais un manque quand l'intervalle entre les réunions était plus long. » Et dans la liturgie, elle rejoint la communauté plus élargie. Elle dit, « J'ai pris goût à aller à la messe, et cela a été facilité car il y a toujours eu des bons curés. Nous avons partagé les textes avant pour en être imprégnés. Chaque texte me touche. » Et maintenant, elle dit, « Où je vais pouvoir sentir quelque chose de fort quand tout sera fini ? C'est la question qu'elle se pose. Quelle communauté rencontrera-t-elle pour pouvoir vivre son désir de continuer à partager la parole de Dieu et de vivre la vie en Église à fond?